Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport dans un super Sunday, super dimanche de sport avec le marathon de Paris. Hein. Vous êtes près de 60 000 sur eh bien les routes parisiennes en train de courir. Actuellement, je rigole parce que Julien Benneteau, en voulant mettre son casque, s'est mis un énorme coup dans le nez. C'est absolument grotesque. Alors, les accidents. T'étais du genre maladroit, toi, genre à t'envoyer un smash dans la gueule.
Ah, mais t'as pas aidé. La grande phrase de ma mère, c'est putain, si t'avais été à la droite, t'aurais été bon au tennis. Ah, mais t'as pas idée. Des moufles greffées sur les mains, quoi. C'est terrible.
Ouais, bah dis donc, hein, bah, c'est bien, on en fait des choses avec des moufles, ouais. Ça veut dire quand même. Jérôme Pinault est là, Simon Dutin, Pascal Duprat, je disais, c'est un super dimanche, marathon de Paris. Il va y avoir également le Masters 1000, la finale entre Alcaraz et Sinner tout à l'heure. Est-ce que c'est une finale qui peut laisser des traces à un mois et demi de Roland Garros? On retrouve Eric Salio qui, d'ailleurs, Eric Salio jouait la finale du tournoi de la presse du Masters 1000 de Monaco. Hein.
Ouais, c'est comme quoi le niveau baisse chaque année.
Ouais, il pourrait aller chercher sa troisième couronne, ce serait le Pogacar.
Triple couronne.
Ouais, triple couronne. Ça va être la finale du tournoi de la presse.
Ouais.
Eric Salio.
Eric Salio, mais c'est un super joueur, Eric Salio.
De tennis?
Ouais.
Le tournoi de tennis.
D'accord. Il y a deux infos dans cette phrase.
Incroyable.
C'est qu'il est journaliste et qu'il joue au tennis.
Et je vais vous imiter Christian Prudhomme. Top départ réel donné de Paris-Roubaix à l'instant.
Formidable
évitation. 258 km et 30 secteurs pavés. Ce ne sera pas pour tout de suite les secteurs pavés. Je vous donne un petit point clé quand même. Hein. 14h30 normalement, l'entrée dans la trouée d'Arambert. Ce sera la suite dans le Stephen Brunch tout à l'heure. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez votre enceinte portable minotée au design épuré de la marque française Lexon, qui peut se transporter partout grâce, Bennett, à son mousqueton intégré, je te rappelle. Bon, qu'est-ce que tu ferais avec un mousqueton, avec tes moufles?
Je le mettrais dans l'œil.
J'arriverais même pas à l'ouvrir, moi.
Mais qu'est-ce que pour remporter votre enceinte Lexon, appelez le 32-16 touche 4. Vous voyez, sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Pas simple à ouvrir un mousqueton avec
des moufles.
Avec des moufles. Ouais. J'ai l'image dans la tête, c'est pas évident. Ouais. Allez tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce qui nous a marqué cette semaine, c'est le gros coup de sang. On est habitué avec lui, mais là, c'est vrai qu'il nous surprend encore. Daniil Medvedev, au Masters 1000 de Monaco, le Russe a été battu 6-0 face à l'Italien Berrettini en 16e de finale. 0 et 0, hein, comme on dit, c'est quoi? C'est la bicyclette, c'est la bulle.
Ouais, c'est deux roues de vélo.
Deux roues de vélo. Il a explosé de rage, il a fracassé 4 fois sa raquette au sol. Même le public s'est pris aux gens en faisant olé, je vois qu'il a envoyé par terre. Il a commis 30 fautes direct et 5 doubles fautes en 49 minutes de match. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, de la gestion de la colère. Comment s'en servir? Comment la contrôler? Comment elle vous dépasse? Vous avez peut-être des conseils à donner à nos auditeurs et auditrices. Tiens, bah, attends, Bennett, on parle de tennis justement. T'es un colérique, toi?
Non, pas trop. Pas comme... comme Medvedev ou comme Benoît Paire, par exemple.
Parce que c'est le sport de la colère, hein, pratiquement. C'est le sport de la frustration où il faut se contrôler, quoi.
Ouais, on est sport individuel où il y a une instantanéité entre ce qu'on est en train de faire, ce sur quoi on doit réfléchir, le point d'après, le jeu d'après, avec des moments de tension où parfois on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il y a l'adversaire, il y a la confrontation à l'adversaire. Donc il y a beaucoup de choses à gérer dans un laps de temps très court qui se répètent.
Tu peux avoir beaucoup de conflits internes, en fait.
Oui, parce qu'on prend une course de vélo. C'est 250 km. Tu gères moins bien un passage, un truc. T'as un coéquipier, tu vas essayer de revenir, etc. Là, au tennis, tu dois gérer tes émotions, hein. Toi, ton niveau de jeu, ta tactique que tu veux mettre en place, ce que va faire l'autre, une réaction d'un public. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça te fait bouillir là-haut et c'est répété. C'est-à-dire que des points importants, il y en a dans un match. Une balle de break, un truc. Tout ça fait que...
Et quand tu commences à bouillir, justement, que tu rates beaucoup de choses d'affilée, dans des moments importants, comment toi tu gérais ça?
Je te dis, moi, je n'étais pas très, très colérique. Tu essaies de te recentrer sur ce que tu sais faire. Tu essaies de te recentrer sur ce que tu dois faire. en tout cas ce que tu as envie d'essayer de mettre en place et en fait on rentre dans un système un peu mécanique où on passe au point d'après et où on essaye de gérer, parce que le gros problème qu'on a, c'est que bon, Medvedev là c'était à l'extrême, mais si on se laisse gagner par cette colère là on peut très vite laisser passer 2 ou 3 points, ça fait un jeu, ça fait un break et on revoit pas le set. Et ça, c'est ça qui est très 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 difficile à gérer.
Tu l'as dit, Julien, on n'est pas dans deux sports comparables, mais je crois que dans tous les sports c'est la même chose. Le constat, il est implacable, c'est que la colère t'apporte de la contre-productivité et agit de façon négative sur ta performance.
Elle peut aussi t'apporter un shoot d'adrénaline et
très
te pousser.
La colère, si tu arrives à la contrôler. Exactement, j'attendais que Pascal intervienne parce que je sais que lui est un colérique et qu'il peut parfois, il pouvait monter.
Non, mais toi, t'es un colérique.
Moi, je suis un colérique, mais par contre, sur le vélo, me mettre en colère après qui, après quoi, ça m'aurait fait perdre de l'énergie.
Bah, par exemple, c'est le mec qui prend pas les relais.
Alors, bah, le mec qui prend pas les relais, j'essaye de lui expliquer qu'il vaut mieux en prendre et j'arrête de le relayer s'il ne veut pas collaborer. Mais je me mets pas en colère.
Alors, on le voit, par exemple, Remco Evenepoel, il s'est mis en colère.
Justement, souvent, quand Remco Evenepoel se met en colère, regardez les résultats des courses. C'est toujours très contre-productif parce que faut garder ses nerfs. Ça s'appelle aussi garder ses nerfs.
Ouais, tu perds de l'énergie, bien sûr.
Et c'est tout l'apport que j'ai eu par le passé quand j'étais athlète. Et manager, parce que tu peux aussi te mettre vite en colère quand tu es manager, bah de la gestion au préalable avec un préparateur mental, ça passe par là, souvent, parce que si tu canalises pas cette énergie-là et que tu n'arrives pas à transformer ta colère en énergie positive ça te déborde et c'est contre-productif. Ça t'empêche d'aller plus loin, ça t'empêche de performer et d'offrir des performances aux autres. Parce que si tu te mets en colère quand tu as la tête d'une équipe comme tu as été capitaine, les autres, ils sont dans ta foulée. Ils sont dans
ce que tu
énergie,
dégages, ce que tu fais, bien
exactement.
Sûr. Et on parlait tout à l'heure, on parlait du golf. Le golf, c'est aussi un sport.
C'est un peu semblable au tennis là-dessus.
Bien sûr.
De frustration.
De frustration énorme.
Bien sûr.
En un coup.
En fait, c'est les sports d'adresse qui sont des gros
sports. En un coup, tu peux perdre ton tournoi. Un mauvais.
Parce que vous avez un élément matérialiser votre colère, c'est la raquette ou c'est le club. Quand tu fais du foot,
tu fais du vélo. C'est l'arbitre, les entraîneurs.
Tu vas pas envoyer tes pompes ou tu vas pas envoyer ton vélo dans le champ, quoi. Tu vois. Donc en fait, malgré tout, je sais que j'étais un joueur avec de la personnalité, si vous voulez, mais un caractère, mais j'étais obligé de contenir ma colère. Et puis ma colère, elle était dirigée vers plusieurs personnes parce qu'elle peut être dirigée contre toi. C'était beaucoup mon cas, c'est parce que je me mettais une putain de pression quand j'étais jeune. Je voulais toujours faire bien. Ça peut être contre tes partenaires aussi, parce que dans un sport collectif, des fois t'as des partenaires qui essayent de faire leur place. Si tu montres pas les dents, et ben tu te fais bouffer, parce que c'est la jungle. Et puis de temps à autre, c'est contre tes adversaires. Et nous, quand on déborde de colère contre l'adversaire, en règle générale, on prend un carton rouge quand on est sur le terrain. Et puis comme le disait Jérôme, il y a aussi, et ça c'est avec le temps, quand t'es manager. Et puis il faut toujours que tu gères ta colère. Il faut que ça soit.
T'as pas toujours vu très calme sur le bord du terrain,
non, mais
Pascal.
Effectivement, mais il se trouve qu'avec le temps, j'ai compris que ça pouvait être contre-productif. Je dis pas que ça n'a pas toujours été productif, quelquefois. Parce que là aussi, quand il y a une bataille avec le banc adverse, c'est-à-dire quand le banc adverse est toujours en train de pleurer à l'arbitre, il y a une lutte d'influence. Donc si tu te laisses faire, tu te fais bouffer. Donc il faut aussi là.
Mais montrer, en général.
Mais tu te mettais en colère sur quoi, toi, avant, Pascal?
Moi, un joueur qui me ratait deux passes à 2 mètres, il est vrai qu'au début, je mettais, quoi. Je disais t'as les pieds octogonaux, quoi. Bon, franchement.
Non, mais en général, c'est que t'es pas serein. Pas quand t'es joueur. Parce que quand t'es joueur, mais quand t'es manager ou entraîneur.
T'es capitaine,
tu trahis tes peurs. Quand tu fais comme ça.
Et c'est que t'es pas serein.
Non, toi, capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, en plus, t'es sur la chaise, t'es à 1 mètre des joueuses. Pour le coup, donc toi ton body language il se voit ici tout de suite, le langage corporel.
Bien sûr, moi j'ai jamais été en colère sur le terrain vis-à-vis de mes joueuses ou quoi que ce soit, parce que j'essaie de m'imaginer ce qu'elle vivait. Mais je me souviens il y a deux ans, un an et demi, le barrage qu'on joue en Colombie pour rester dans le groupe mondial. On est à l'extérieur et c'est le match piège par excellence. Et puis on commence à descendre dans la hiérarchie. Donc la Fédération internationale, dans l'organisation de la rencontre, bah, on n'est plus du tout pareil que quand on a été en Australie dans l'organisation de la finale, où il y a les meilleurs superviseurs, les meilleurs arbitres de chaise, etc. Là, on a un superviseur qui, au tirage au sort, me demande ce qu'il doit faire. Et on a des arbitres, même si c'était sur terre battue, qui sont pas là. Et là, moi, à un moment donné, je me suis énervé après l'arbitre. Mais après coup, le truc, c'était anodin. Ça n'avait aucune conséquence. C'est parce qu'à ce moment-là, j'étais pas serein sur mon équipe. J'avais Diane Paris qui venait de se péter le genou. Je savais pas si elle allait pouvoir jouer le reste de la rencontre.
C'est quoi, tu dis, tu perds toujours à t'énerver, en fait. C'est un peu ça que tu te dis?
Ouais.
Après coup, en fait.
Bien sûr, c'est rarement, mais rarement positif. Bah,
moi, je vais te citer un contre-exemple.
Ah,
tu vois,
très bien.
Ouais.
On est dans la gestion de la colère dans le vestiaire. Vas-y, dis-nous.
C'est une demi-finale de Coupe de France avec le TG. Nous jouons à domicile contre Lorient. Donc la perspective de faire une finale, on la fera d'ailleurs. Et à la mi-temps, contre Lorient, nous gagnons 3-0. Et depuis 10 minutes, je me rends compte, à partir du 3-0, avant de rentrer à la mi-temps, je me rends compte que les joueurs font moins les efforts, qu'ils gardent le ballon et commencent à se la raconter. Donc je me dis, du banc jusqu'au vestiaire, je réfléchis à comment je pourrais impacter les joueurs. Donc je suis rentré dans le vestiaire, je me suis enquéri de savoir s'il y avait des blessés, il n'y avait pas de blessés. J'ai fait sortir les kinés, j'ai fait sortir mes adjoints. J'ai parlé à mon capitaine, ce n'étaient que les joueurs et moi. J'ai dit à mon capitaine, vous êtes tellement con que je pense que vous allez vous faire éliminer. Donc à toi de régler le problème parce que vous la jouez. Et je suis sorti. En fait, je suis resté 4 ou 5 minutes et ils sont restés une dizaine de minutes ensemble. Le capitaine me raconte ensuite qu'il y a des joueurs qui ne comprenaient pas. Il dit, mais il est fou le coach, pourquoi il nous engueule tout ça. Voilà, on gagne 3-0, c'est la mi-temps. Ben justement, c'est pour pas qu'on se fasse reprendre. Mmh. C'était mieux, c'était. Alors, je ne te dis pas que ça a contribué au fait qu'on marque un autre but et qu'on batte Lorient 4-0. Mmh. Mais disons que c'était pour moi le moyen sûr de feindre la colère. C'était le moyen sûr de garder les joueurs.
Alors, tu as utilisé la colère comme un levier,
c'est intéressant. C'est un acte de conséquence de gestion de la colère, ça, de quitter, de mettre juste ce qu'il faut comme ingrédient et de te retirer. Moi, j'ai l'exemple dans mon équipe quand j'étais coureur. On savait que quand on n'avait pas été bon, quand Patrick Lefebvre,
le patron de l'équipe Quick Step à l'époque,
était sur la course, mais n'attendait pas la fin de la course. C'était sa manière
à
lui.
Ça sentait pas bon.
Et en général, la colère, tu la prenais plus tard. Moi, j'ai un regret dans ma vie de manager qui a été très courte. C'est suite à une performance nullissime de mon équipe en Bretagne, chez nous, sur notre terrain à la Route Adélie à l'époque. J'ai pris la parole dans le bus et j'ai pas contrôlé ma colère. Je les ai tous pris un par un et je les ai tous cartonnés. Parce qu'il y avait toujours un problème. Et je leur ai dit ce jour-là, mais dans ce bus, qui est digne d'être coureur cycliste professionnel? Moi, j'en vois pas.
T'as bien fait. Tu regrettes?
Et je regrette parce que le lendemain, c'était dans la presse. Parce qu'il y a aussi se mettre en colère face à des gens qui sont capables d'accepter la critique et d'autres qui ne le sont pas. Je pense que quand tu parles à ton capitaine, à ce moment-là, tu sais à qui tu parles. Il y a des joueurs à qui tu peux être contre qui tu peux te mettre en colère.
Mais je parlais devant tout le monde. Je m'adressais au capitaine, mais j'ai parlé devant tout le monde.
Et moi, j'ai vécu une scène hier sur un terrain de sport, au football, où t'as un gamin qui vient jouer pour la montée en nation, et le gamin, au bout de 5 minutes, comme il joue contre le dernier du championnat, bah, il gris-grite, il garde la balle, etc. Et l'entraîneur se tourne vers le manager du club. Et le manager lui a dit, là, t'as fait une erreur, t'aurais dû le sortir au bout de 5 minutes.
Ouais.
Et c'est ça, gérer sa colère. Tu peux être en colère, mais il faut la gérer parce que brailler, crier, insulter ou faire des gestes de colère, non, ça
c'est contre-productif.
Mais Pascal, pour le coup, on est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, la gestion de la colère. On a l'image toujours, et on a eu l'expérience, Simon et plusieurs journalistes, à vivre des rencontres au bord du terrain et à voir le latéral ou l'ailier en prendre plein la tête de l'entraîneur pendant tout le match.
Mais
c'est celui qui est le plus proche de toi, le plus proche du banc.
Ouais, mais
est-ce que tu plaides coupable là-dessus, toi aussi?
Non, au début, il prenait pour tout le monde, pauvre. Au début.
Tu disais quoi?
Par exemple, pour passer les messages à l'équipe, tu passes les messages au garçon qui est le plus près de toi, parce que imagine-toi quand il y a du monde, il t'entend. Le mec qui est à l'opposé, il t'entend pas, hein, à moins que t'aies un porte-voix. Donc tu passes des messages. Donc déjà tu l'investis d'une mission qui est pas forcément la sienne.
Tu dis quoi? Okay. Oh, tu vas dire à tout le monde de se bouger, ouais.
Ouais, bah oui, ça m'est arrivé. Et puis ensuite, ensuite très vite j'ai compris que quand tu parles positivement, y compris pour dire quelque chose de négatif, quand tu y mets les mots positif, eh ben c'est mieux. Par exemple, quand au début de ma carrière d'entraîneur, il ratait deux passes, je rentrais dedans, je lui disais c'était une bille, quoi. Et ensuite, je lui ai dit, écoute, tu viens de rater deux passes, mais c'est fini. Il en restera encore beaucoup d'autres que tu vas réussir. Ben, l'approche est différente. Mmh. Voilà, le joueur, tu le crispes moins, tout simplement.
Bennett, on a parlé du tennis comme un sport individuel. Tu as parlé de quand tu étais capitaine, mais tu as aussi été un grand joueur de double, médaillé olympique notamment. En double, il y a le... Mais il peut y avoir la colère avec ton partenaire.
Pas sur le terrain. Non, moi, j'étais dans une optique où si moi je jouais moins bien, je voulais pas qu'il se mette en colère avec moi, donc je voulais qu'il me tire vers le haut. Donc moi, quand lui il avait un coup de moins bien, j'essayais de me mettre là-dedans. Par contre, dans la gestion d'une saison, dans la gestion d'une carrière en double, il faut savoir que quand tu joues le double toute l'année ou plus ou moins toute l'année, il y a des spécialistes du double qui jouent pas le simple, et les mecs, leur parole parfois, elle est très très très, comment dire, elle vaut pas grand chose.
Porteuse.
Non, elle vaut pas grand chose dans le sens où on se met d'accord, on joue le double l'année prochaine ensemble, ok. Et puis au bout de 3 semaines, 4 semaines, t'as pas les résultats escomptés. T'apprends qu'il parle déjà avec quelqu'un d'autre, qui est avec une autre paire, parce qu'il pense que et
mais c'est la thérapie de couple, hein.
Et là, là il peut y avoir la colère en disant voilà, moi il y a une scène où on était à Rome, je devais jouer avec quelqu'un, Rome, Roland Garros, Queens, Wimbledon, donc les 4 tournois qui allaient suivre, etc. Et là j'apprends que ce partenaire, on m'appelle, d'autres joueurs me disent fais gaffe. Parce qu'il a parlé avec telle personne et telle personne.
Pour aller jouer avec d'autres, quoi.
Ouais, sur le même tournoi.
Tu te trompes, quoi.
Non, mais là, je me renseigne. Tu vas voir l'ATP parce que tu as des prélistes, tu peux voir. Ouais. Et là, il y a quelqu'un de l'ATP qui me dit, oui, je te confirme.
Oh,
et donc, après, dans les vestiaires, il y en a un qui me dit, mais attends, mais lui, il est engagé avec un autre. Donc, il avait dit oui à trois joueurs différents. Et on devait jouer l'après-midi même à Rome. Et là, je vais le voir. Donc, je lui dis, bon, écoute-moi, là. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il est en larmes. Ouais, je sais pas à quel niveau tu es. Moi, je revenais de blessure. Comprends-moi, etc. Et là, en fait, j'ai une colère froide. C'est-à-dire que je dis alors voilà, c'est très très simple. Je dis on doit jouer cet après-midi. On doit jouer Roland Garros, Queens et Wimbledon. Donc, soit tu me dis on joue Queens, Roland Garros, Wimbledon ensemble et je joue cet après-midi. Soit tu me dis que t'es engagé à quelqu'un d'autre. C'est très simple. Je joue pas cet après-midi, je prends l'avion, je rentre à Paris, je vais voir ma femme et mon fils. Moi, j'en ai rien à secouer, etc.
Et ça vous a servi, cette colère, hein, cette colère froide, derrière?
Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, il me dit, ouais. Et je lui dis, c'est très simple, on va aller tout de suite dans le bureau de l'ATP, tu vas leur dire, j'ai fait une connerie, je suis engagé avec Beneteau, et ça m'a servi. Oui, on a bien joué derrière. Mmh. Mais au moins, j'avais. Et dans la là, ça peut te mettre en colère quand t'es le mec qui
a fait. Bien sûr, et du coup, ça peut avoir une incidence sur la performance derrière.
Sur la confiance.
Le sparring partner, non, tu n'as jamais mis en colère? Moi, je me suis pris la tête avec mon frère Sébastien, avec qui je m'entraînais quand j'étais chez les jeunes.
Ouais.
Je pense que c'est lui qui a pris le plus la foudre de mes colères, parce qu'à l'entraînement, t'es moins embêté, tu penses moins à ta perf. Et quand ça s'était mal passé le week-end et que les séances ne passaient pas, celui qui était avec moi à l'entraînement, c'était souvent mon frère, il prenait cher, quoi.
Rapidement, Simon, un petit mot de la fin. Je sais que t'écoutes toujours et que tu penses toujours à l'écho que ça peut avoir sur nous, humains, et pas sportifs de haut niveau.
C'est toujours passionnant d'écouter les récits de ceux qui ont atteint ces altitudes, parce que notre niveau de sportif du dimanche, en effet, bon, a priori, la colère, elle est rarement porteuse
de grandes performances,
mais ça reste, je pense, au sport de haut niveau, un miroir de l'exigence que tu as envers toi-même et de la confiance quelque part que tu as dans tes capacités. Après, tout dépend de la façon dont, Jérôme le disait, dont tu la gères, et notamment du moment où elle s'exprime. Il faut en faire, je pense, un moteur et pas un déversoir, en fait. Voilà. Et si tu t'appuies sur, oui, une colère pour qu'elle te porte, que ce soit un levier. Mais si c'est la colère à la Benoît Paire, à la Kyrgios, en effet, ou à la Medvedev qui fracasse des raquettes parce qu'il n'est pas content de son revers, en effet, c'est rare que ça t'amène plus loin, je pense.
Les gars, le mot de la fin, juste très rapidement, si vous avez un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices, comment on gère sa colère? C'est quoi? On souffle? On fait le vide.
Ouais, mais ça c'est facile, ça c'est des pensées, c'est facile à dire. Souffler, faites le vide, penser. Une image qui vous fait du bien.
Bah, je sais pas, vous avez un truc.
Un foulu sur la gueule. Sur la face,
d'accord. Allez, on ferme la porte du vestiaire. La gestion de la colère. J'ai reçu plein de messages. Hein, je vous le dis sur WhatsApp. Philippe qui nous dit le golf c'est tellement un sport de frustration aussi où la colère est compliquée à gérer. Donc on a beaucoup de messages là-dessus. Mariette aussi qui dit parfois ça peut être bénéfique aussi hein, la colère pour sortir de moments difficiles.
Denis Troche, préparateur mental, disait toujours si t'as de la colère c'est que t'as de l'énergie, donc serre-toi-en positivement.
Ben, Christophe d'ailleurs me rappelle sur WhatsApp, Maître Yoda a dit un jour la colère mène au côté obscur de la force. Et oui, hein, toujours important de refaire appel à Maître Yoda dans les moments compliqués. Allez les amis, Paris-Roubaix est en cours hein, c'est parti depuis 10h50. Évidemment on va retrouver Maria Azé dans quelques instants, Jérôme Coppel, Christophe Cessieux pour le commentaire. On est encore un petit peu loin des secteurs pavés, mais on surveille tout ça pour vous. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Julien Beneteau, avec Jérôme Pinault, avec Simon Dutin, avec Pascal Duprat. On parlait de la gestion de la colère, on va continuer le débat entre nous. Et je pense à Christophe Cessieux d'ailleurs. Voilà, en voilà un qui gère bien sa colère dans les jeux. Un exemple à tous.
Alain Patrick le fait, il quitte, il s'en va.
Ouais, pas que hein. Et je rappelle qu'il peut être violent également. Il avait envoyé un stylo entre les deux yeux de Julien Beneteau.
Ça c'est quand
vrai.
Il a son
c'est vrai.
La colère à son paroxysme.
Et ça l'a pas fait gagner derrière. Allez, dans un instant les jeux, justement on va voir quel GG connaît le mieux le sport. Mais d'abord, finale du Masters 1000 de Monte Carlo à 15h sur RMC. Première confrontation cette saison entre les deux monstres du circuit, Alcaraz et Sinner. Première sur terre battue depuis leur immense finale à Roland.
RMC, les GG sur le buzzer.
Oh, il trouve du Carlos Alcaraz,
la mythe le long de la ligne.
Alors là, tu prends des percutes, hein.
Non.
Et il pousse le public, évidemment, il en veut.
Oh, il est fort.
Oh, les champs de balade, et ça sort.
Oh, quelle défense d'Alcaraz, parce que déjà la première, il arrive à en retourner.
Vous entendez Carlitos qui fait la diff, là, c'est fait.
Ça garde
tout.
Oh, non. Oh,
mais c'est génial. Un footballeur qui vient de marquer un but. C'est complètement dingue. Ça remonte à la tête en marche.
Oh,
il finit sur un passif de coup droit, Carlos Alcaraz. Cette finale mythique,
c'est incroyable.
S'achève sur un winner. Alcaraz remporte Roland après avoir sauvé 3 balles de match. La plus belle finale de l'histoire de Roland Garros. On vient de la vivre. C'est insensé ce qui s'est passé.
Et oui, on n'a pas vu de confrontation entre les deux garçons sur terre battue depuis ça, hein, depuis les 5h29, ce match homérique entre Alcaraz et Sinner qui se retrouve donc pour la première fois de la saison et pour la première fois à Monte Carlo. C'est une première en finale. L'Italien peut reprendre la place de numéro 1 mondial à l'Espagnol en cas de succès. Sinner vient d'enchaîner 2 victoires en Masters 1000 à Miami et Indian Wells. Alcaraz a gagné le premier grand chelem de la saison. Les deux hommes s'affrontent sur terre donc, et on attend de voir si l'Italien va enfin gagner un titre majeur sur cette surface. Les GG, je vous pose la question, on est à un mois et demi de Roland-Garros, est-ce que cette finale peut laisser des traces avant les internationaux de France, oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Non. Julien Beneteau.
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Jérôme Pinault.
Oui, surtout pour Sinner.
On vous attend au 32-16 pour en réagir et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Notre voix du tennis. Éric Salio est avec nous depuis le Tennis Club de Monte Carlo. Salut Éric.
Bonjour à tous.
Première question.
Salut Éric. Tu t'es trompé, Georges. On ne peut pas dire c'est le Tennis Club de Monte Carlo. C'est le Monte Carlo Country Club.
C'est vrai, pardon.
Il faut respecter.
Désolé, c'est vrai. Éric, dans le tennis, vous êtes chiant avec ça. Il faut s'habiller en blanc. Éric, est-ce que tu as gagné le tournoi de la presse déjà?
Bah non, mais on s'en fout de ça.
Non, si, c'est important.
Bah, il a gagné.
On s'en fout, il a raison, Julien.
Ah, il a gagné. Il fait le triplé.
La plus dure parce que j'étais mené 5-2, je gagne 7-6.
Oh,
c'était sur le cours des princes. Un seul regret, ils avaient enlevé les tableaux d'affichage.
Est-ce que cette finale va laisser des traces dans votre rivalité?
Elle va laisser des traces dans mon corps ce soir et demain matin, ça c'est clair.
C'était important.
T'as cassé une raquette?
Non, mais je me suis pris chou avec l'arbitre. Mais bon,
bravo. C'était important d'en parler pour que vous compreniez aussi, oui, auditeurs et auditrices, qu'on a des journalistes qui, voilà, y vont, vraiment. Éric Salio, tu me disais en préparant cette émission que cette finale Alcaraz-Sinner, ça pouvait être un laboratoire en vue de Roland-Garros, surtout pour Sinner.
Oui, parce que Sinner reste sur 3 échecs en 2 ans face à Carlitos sur terre battue, 2 fois à Porte d'Auteuil et 1 fois à Rome. Il ressent le besoin de voir où il en est sur cette surface qui n'est pas naturelle pour lui.
C'est bon de le jouer au moins 1 fois avant Paris, histoire de situer mon niveau sur cette surface, de voir les éventuels axes de travail. Même si je perds, on va forcément tirer des enseignements.
Carlos Alcaraz a vu les matchs de l'Italien sur le rocher, il est conscient du danger et il accepte la position du chassé puisqu'il peut perdre son titre et la place de numéro mondial.
Je crois qu'il a dit que la terre battue n'était pas sa surface préférée. Je dirais que son style convient beaucoup mieux à d'autres surfaces, mais le niveau qu'il affiche cette semaine est vraiment excellent.
Alors, s'il y a un garçon qui peut étalonner les forces en valeur, c'est bien Valentin Vacherot. Hier, il a subi la loi de Carlos Alcaraz en demi-finale, et voilà ce qu'il a ressenti.
Évidemment que sur le service plus 1, ça déménage. Hein. Et après, ouais, quand ça décale, bonne chance. Ça arrive avec de la lourdeur sur ton revers, sur ton coup droit, et c'est pour ça qu'il est meilleur sur cette surface.
Mais avant le tournoi, il avait tapé avec Sinner, et l'Italien lui avait fait une énorme impression.
Différent que Alcaraz, t'as l'impression de jouer un mur, quoi. T'as l'impression que jouer un mur, ça revient, ça revient, ça revient. Que ça a autant de lourdeur qu'Alcaraz, non, mais par contre, ça va aussi vite. Ça va aussi vite, il te met autant de points gagnants, et ouais, donc c'est pour ça que ça va être un super match.
Le Monégasque a presque tout dit. Sur le plus beau cours du monde, entre mer et montagne, on ne peut s'attendre qu'à un sommet de tennis.
15h pour la finale. Alcaraz Sinner avec toi, évidemment, sur RMC. Vous n'allez rien rater. Merci, Eric. Tu restes avec nous. Bennett, toi, tu crois pas que cette finale peut laisser des traces à 1 mois et demi de Roland Garros? Pourquoi?
Non, parce qu'on est loin de Roland Garros encore, qu'il y a d'autres tournois qui vont arriver, notamment Rome, où Rome, ça se joue dans des conditions qui se rapprochent de Roland Garros. On est à 15 jours du tournoi à ce moment-là, enfin même un peu moins. Et puis, le problème, c'est qu'on est avec 2 extraterrestres. C'est-à-dire que s'il y avait bien un moment l'année dernière où on pensait qu'il y avait un match qui allait laisser des traces, c'est la finale de Roland Garros, où Sinner la perd avec 3 balles de match consécutives, où il est au fond, comment dire, détruit d'avoir perdu cette finale de Grand Chelem, et qu'un mois après, il rejoue Alcaraz en finale de Wimbledon, il perd le premier set de cette finale en menant 4-2, et on se dit, bah, il n'y arrivera jamais, et en fait, il gagne. Donc,
ça veut dire que rien ne les atteint.
Voilà, même si aujourd'hui, il perd 2-1 en 1h10, il ne va pas se dire, j'ai aucune chance de gagner Roland Garros.
Non, mais ça peut jamais marquer un peu.
Non, pas marquer. Pas. Je pense que ça veut dire OK.
Surtout que c'est pas la surface, ouais, effectivement.
Voilà.
Ou
voilà ce qu'il faut que ça, ce faut que je travaille, et il me reste du temps en vue de Roland Garros.
Pascal,
En fait, ça voudrait dire, Julien, que ces deux champions d'exception seraient donc différents d'autres champions d'exception dans n'importe quelle discipline sportive. L'ascendant psychologique, je pense que ça existe en sport. Et là, sur cette surface bien spécifique, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois qu'ils sont rencontrés 4 fois et qu'Alcaraz mène 3-1. Ouais. Si à la fin de ce match-là, Alcaraz bat Sinner, il a beau être un des deux meilleurs joueurs sur terre battue, ça a beau être le premier tournoi sur terre battue, ça a beau être à 1 mois et demi de Roland Garros, malgré tout, me dire qu'il ne restera aucune trace, à mon avis, serait faux. Il en restera des traces, parce que Sinner se dira, manifestement, il faut encore que je travaille parce que j'y arrive pas contre Alcaraz sur terre battue.
J'ai changé des trucs, mais j'y arrive pas.
Alcaraz, par contre, se dira, tiens, j'ai quand même un ascendant psychologique, donc faut que je continue dans cette voie-là. Voilà comment j'interprète le résultat du match cet après-midi.
Jérôme, moi, j'ajouterais aussi que dans cette confrontation-là, Sinner, selon le résultat, et s'il y a défaite pour Sinner, ça va aussi dépendre du type de défaite, mais je pense qu'il a mis en place des choses pour se préparer pour la terre battue, et il y a des marqueurs de progression, il y a des marqueurs de performance qu'il devra cocher, et s'il la perd cette finale, il n'aura pas oublié le traumatisme de la finale de l'an dernier, même si tu le dis, ce sont des immenses champions. Je pense que même dans la tête de ces grands champions là, valider les essais, valider les choses faites à l'entraînement, valider les petits changements.
Non, mais s'il prend 2-7-0 par exemple, Sinner,
ça va être très marquant.
Parce que je pense que aujourd'hui
Tu penses pas que la forme peut avoir une incidence?
Pas encore, la finale de cet après-midi, dans les yeux du grand public et Alcaraz est favori, c'est sur terre battue, c'est sa surface, il a gagné Roland-Garros. Donc Sinner, il n'a pas grand-chose à perdre cet après-midi.
Non, mais justement, Julien, si un jour il... Parce que là, tu es en train de dire que finalement, c'est logique qu'Alcaraz gagne sur terre.
C'est quand même pas un match amical.
Mais Roland, c'est sur terre. Donc Sinner, il doit valider des choses pour essayer un jour de gagner Roland sur la terre.
Ah oui, mais attendez... En fait, pour moi, ça n'a pas trop d'incidence, ça n'a pas laissé de trace, parce que même s'il a perdu, il est à un point de gagner l'année dernière. Mais donc ça veut dire qu'intrinsèquement...
Il n'est pas à un monde d'Alcaraz. En fait.
Voilà.
Sauf que c'est l'autre que Palmarès.
Il est capable, ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais il l'a. Il l'a dans le, il l'a dans le, dans les jambes, dans la raquette.
Ah, j'ai fait deux fois l'étape du tour, j'en ai pas. Hein.
Non, mais tu l'avais pas.
Ouais. Bah ouais, bah, j'y étais, j'étais à un 200ème.
Simon, toi, t'es d'accord avec Bennett?
Bah, j'ai surtout l'impression que, et c'est ce qui, pour moi, fait quasiment le seul grain de sel de ce tennis actuel, c'est que les dynamiques n'arrêtent pas de s'opposer. On avait l'impression qu'Alcaraz, la saison dernière, avait quand même pris un ascendant sur Sinner. On peut avoir la sensation que Sinner a la dynamique positive lors de leurs derniers affrontements. Je crois que quand ça se joue en 5-7, en revanche, il y a pas mal. Je parle sous le contrôle de Eric, c'est toujours Alcaraz qui s'impose, ou quand même très souvent. C'est surtout que, en fait, ces mecs-là, quand ils sont en forme, ils dominent tellement tout le reste du peloton du tennis mondial que t'as l'impression que tu jettes la pièce, et c'est ça qui rend leur duel si excitant, quoi. Ça peut retomber d'un côté comme de l'autre.
Je crois que c'est le 17ème, a priori, déjà, non, Eric?
Ouais, c'est 11-6 pour, 11-5. 11-5 pour Alcaraz, 11-6 ?
10-6, ouais.
10-6.
Enfin, 11 si tu comptes le Challenger en 2019, ouais.
Non, on le compte pas celui-là.
Non, mais toi, Eric, tu penses un peu laisser des traces pour le coup ? C'est un match qui compte aujourd'hui, là ?
C'est un match qui va être intéressant parce que vous allez. Évidemment, vous n'avez pas vu tous les matchs de Sinner cette semaine. Il tente beaucoup de choses. Il a étoffé sa
palette. Service volé, hein ?
Service volé, beaucoup d'amortis. Alors, il n'a pas la même main qu'Alcaraz, non. Mais ça devient très efficace. Et ça perturbe les mecs en face, qui jouent plus comme avant. Donc, il a ce côté rouleau compresseur, ce mur, comme le dit justement Valentin Vacheron. Bonjour, mais vous allez voir, il va tenter des choses différentes. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'Alcaraz, dans le petit jeu, il n'a pas d'équivalent.
Non.
Les contre-amortis, il est extraordinaire. Mais je pense que Sinner va le provoquer là-dessus. Donc, moi, ça m'excite.
Je pense, Eric, c'est une marque d'intelligence de la part d'un Sinner qui, quand même, voilà, tu le dis, n'a pas la même main qu'un Alcaraz, qui a plus de coups dans sa raquette qu'un Sinner. Et c'est tout au crédit de Sinner d'essayer de faire évoluer son jeu vers ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'il va pouvoir.
Mais il l'avait dit, c'était quoi ? C'était l'année dernière qu'il avait perdu contre Alcaraz sur je ne sais plus quelle finale de Grand Chelem.
Oui, une demi-heure après. Incroyable, sa conf. Voilà. Je suis trop prévisible.
Ah non, mais voilà, non, mais c'est, ça montre quand même que ça travaille.
Ouais, mais c'est pour ça que après les confrontations entre eux,
c'est pour ça que cette confrontation-là va être importante, parce que comme il a fait évoluer son jeu, il veut que ça paye face à Alcaraz.
Eric, Sinner n'ira pas forcément à Madrid, au Masters 1000 sur terre battue.
J'ai l'impression que Madrid, il va faire l'impasse.
Ah ouais donc il pourrait se retrouver peut-être qu'à Rome.
Oui, ça suffit pour
chez lui.
Donc, il va se faire un gros bloc d'entraînement après Monte-Carlo, là, alors qu'Alcaraz, lui, il a un gros programme.
Barcelone, Madrid, Rome.
Barcelone, Madrid. Il s'était blessé l'an passé à Barcelone. Attention, il joue peut-être avec le feu.
Alcaraz, Sinner, c'est quoi ça ?
C'est avec le feu.
Ah d'accord. À 15h déjà, Alcaraz, Sinner, la finale du Monte Carlo, le Masters Miller. Et quand on retrouve tout à l'heure, on applaudit Eric Salio, s'il vous plaît.
Bravo, bravo, bravo.
J'ai pas volé celle-là.
On s'en va, Eric. Si à chaque point, comme tous les tennismen du monde, t'as fait vamos.
Ah mais j'ai fait un super vamos. J'espère que c'était filmé d'ailleurs.
Comment ça?
Ça valait le coup.
Allez,
ramène. Tu vas présenter tes excuses à l'arbitre.
T'as le ton nom sur un des.
À la fin, il a reconnu son erreur. On me la fait pas, moi. Hein. Elle avait blanchi, il me dit
ah ouais, t'es le boss, toi.
Mais je lui dis mais c'est pas une trace, ça.
J'imagine déjà que le buffet prend tarif sur tous les tournois. Alors là, qu'il a gagné la finale, le buffet, il n'y a plus rien. Allez-y maintenant.
Non, mais moi, surtout, j'imagine Eric revenir dans l'avion de retour jusqu'à Paris avec son trophée.
Le trophée moins gros qu'il y a une dizaine d'années. Ça va, je vais la mettre dans la valise.
Allez, ramène la coupe à la maison.
Ramène au Moscato, parce que Moscato m'a souvent chambré. Je la ramène lundi.
Non, mais de toute façon, tu peux faire.
Bravo, Eric.
Toutes tes émissions jusqu'à la fin de l'année avec ta coupe à côté, il n'y aura pas de soucis. Il faut aller chercher Roland Garros maintenant. Allez les amis, on revient dans un instant pour les jeux du sport pour la fin des GG. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Deux contre deux, vous défendez un auditeur. Les équipes, Julien Benneteau avec Pascal Duprat.
On est souvent ensemble.
Oh là là, ouais, ouais.
On gagne.
Jérôme Pinault avec Simon Dutin. Question impossible, je rappelle, activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer. Hein. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. J'accueille les auditeurs Grégoire et Ludovic. Salut messieurs.
Bonjour tout le monde.
Grégoire, c'est toi qui as appelé en premier. D'ailleurs, on a deux auditeurs du Nord. Ah oui, c'est l'enfer du Nord aujourd'hui, les gars, vous représentez, bravo. Grégoire, tu choisis ton équipe avec Dutin Pinault ou Benedetto Duprat?
Ben moi j'ai envie de gagner, donc je choisis Monsieur Duprat et son équipe.
Voilà.
Merci.
Il n'a pas cité Bennett, il a cité Pascal, c'est ça qui est fort. Et Ludo donc ouais, avec.
Il sait que c'est Bennett qui répond.
Ouais, mais ah. Ludo il a parce que Ludo il est avec Simon. Avec moi je peux comprendre, mais Ludo il a été très malin. Il...
Aujourd'hui vous rapportez une enceinte portable minotée de la marque française Lexon, transportable avec le mousqueton intégré. Je rappelle. Question à une seule réponse. Les GG, on se concentre. Mastersville de Monte Carlo. Quand est-ce que s'est imposé Roger Federer?
Jamais.
Jamais. Bien joué. Julien Beneteau, il voit les pièges.
Bravo Julien.
Il voit les pièges, il est omniscient le mec. Il voit. Il est...
Je me regarde en plus quand il répond ça, il me regarde.
Il m'a mis une balle, deux balles.
1-0 Beneteau Duprat. Question à une seule réponse. L'UBB tenant du titre en Champions Cup. Qui était l'adversaire en finale?
Northampton.
2-0. Il faut, Simon, il faut.
Ah, il est bon, mais je l'ai dit, mais il est bon.
Mais
il
en
est
fait,
rapide,
c'est la latence.
Il a préparé le quiz. Ah. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il peut nous.
Question auditeur, c'est pour vous, Grégoire et Ludovic.
Allez,
Grégoire et Ludovic, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, je sais qui est qui. OK?
OK.
Les gars, qui est leader du championnat espagnol de foot ce matin?
Barcelone et
Grégoire.
Grégoire.
3-0. Question à une seule réponse, les GG. Qui est le dernier coureur français à avoir remporté un monument en cyclisme?
Julien Alaphilippe.
Julien Alaphilippe. T'as pas voulu y aller? Allez, 3-1. Vous revenez. Je me rappelle que vous pouvez activer la question impossible à tout moment. Question à une seule réponse. Marc Mathieu a remporté Paris-Roubaix 2 fois. En quelle année la première? Une seule réponse. En quelle année la première victoire de Marc Mathieu sur Paris-Roubaix? Notre grande gueule du sport.
88.
86.
T'as dit quoi?
87.
T'as dit quoi?
86.
T'es le plus proche. Allez, c'était 85. 3-2.
Non, mais jamais! Oui, c'est pas une bonne
réponse! Attends! Ouais.
C'est quoi ce bordel?
On aurait pu la donner,
quoi? Juste prix! Juste prix, Philippe Risoli, le micro, mais n'importe quoi!
Au juste prix, il fallait être en dessous, mais alors, non.
Juste, excusez-moi.
Il faut gérer sa colère.
Petite parenthèse, voilà, c'est ça. Bénette nous a dit la gestion de la colère, j'étais un monstre.
Carton jaune.
Le mec sur un terrain, il se mettait d'accord avec
le plus près.
C'est un point de vérité, ça, monsieur. Question auditeur.
Grégoire, je suis désolé, tu te fais enfler, Grégoire.
Grégoire et Ludo.
J'ai dit 85, je crois.
Quelle équipe française, Grégoire et Ludo, s'est déjà qualifiée en demi-finale de la Champions Cup en rugby?
Déjà qualifiée. C'est Toulouse, Grégoire.
Ouais. Ouais, bien.
Tu dis quoi?
Grégoire?
Grégoire Toulon?
Non, non, il a dit Toulouse.
C'est Ludo qui a dit Toulon.
Ludo, 3-3.
Oui, Ludo.
3-3.
Non, mais il a pas dit Toulouse.
Non, c'est n'importe quoi.
Il a dit Toulon, mais il a pas
dit Grégoire, t'as dit quoi?
Toulon. Il a fait revoir notre producteur.
Ludo,
3 partout.
Oui. Ah, d'accord.
Allez,
le vol.
Attendez, la vie.
C'est sûr.
La vie, c'est pas toujours juste. Hein. C'est, on essaie de s'adapter.
Faut gérer votre justice. Colère, les gars.
Question élimination. Il y a 3 partout. Vous répondez à tour de rôle, une erreur et vous êtes éliminé. C'est pour vous, les GG.
Alors, combien de points, celle-ci, elle vaut
3 points.
Ah bon
3 points.
Élimination.
Non, pardon, 2 points.
Pour nous, 3, pour toi, 2.
2 points. Il me met une pression, Bennett.
Ah, mais.
Alors que Deschamps est dans la shortlist au Real Madrid, donnez-moi tous les entraîneurs du Real du 21e siècle. Tous les entraîneurs passés par le banc du Real au 21e siècle. On commence par un coach, notre coach, Pascal Duprat.
Mourinho.
José Mourinho, c'est bon. Simon.
Zinedine Zidane.
Zidane. Bennett.
Benitez.
Rafa Benitez, c'est bon. Jérôme Pinault.
Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti, c'est bon. Pascal.
Xabi Alonso.
Xabi Alonso, c'est bon. Simon, je te conseille de prendre tes notes loin de Jérôme qui peut regarder ton carnet.
Mais ils jouent avec toi ensemble.
Ah oui, oui, pas de soucis.
Au contraire, je vais les rapprocher.
Mais même, c'est pas bon ça.
Del Bosque.
Vicente Del Bosque, c'est bon. Bennett.
Arbeloa.
Arbeloa, c'est bon. On cherche les coachs du Real au 21e siècle. Pascal. Moi je parle
Lopetegui.
Lopetegui, merci.
Attends. Georges.
Attends, t'en avais un, Jérôme?
Ouais, Lopetegui.
Non, il l'avait.
Bien sûr que j'avais.
Solari, tiens.
Allez, c'est bon. Allez.
Solari.
Ça passe. Excusez-moi. Simon, c'est à toi.
J'hésite.
5, 4, il s'appelle les
3. Gucidink.
Bon, là, je vais être imbattable. Non, Gucidink.
Non, Gucidink, c'est pas bon. Bennett.
Schuster.
Bien sûr.
Bernd Schuster, c'est bon. Jérôme.
Pellegrini.
Ah non, mais arrête, non. Pascal, éliminé, Pascal.
Mais non, pas éliminé.
Pourquoi?
C'est au tour de Jérôme.
Non. Mais il a pas répondu.
Jérôme. C'est mon tour, c'est normal que j'ai pas répondu.
Jérôme.
Non, mais j'allais dire Louis Van Gaal. Allez, je triche pas.
Bah, il est mort.
Louis Van Gaal, éliminé.
Non.
Ah, voilà.
Donc okay. On a gagné.
Bennett, on a un autre.
Pellegrini, il a dit.
Pellegrini.
Bah oui, on aurait pu dire Capello. Allez, aussi.
6-3. Capello, j'ai hésité avec qui.
Pour réactiver la question.
J'active.
T'as-tu la question impossible? Oh, mais insupportable, tout ça pour flinguer le jeu. Les questions impossibles. Parce qu'il sait qu'il a gagné. Non, mais t'es vraiment.
Ah non, mais attends, s'il répond mal, il perd
un point.
Un point.
Ouais, ah, c'était normal.
Non, mais t'es Machiavel, en fait.
Bah, bien sûr. Attends, je peux choisir le sujet ou pas?
Non. Mais non, mais c'est quoi? Tu veux que je te donne
son balle? Tennis.
Qui est devenu champion olympique en simple masculin en 2004 en tennis?
En 2004 au tennis.
Champion olympique.
C'est. Tu me laisses deux secondes.
Deux. Point final.
Nicolas Massou.
Nicolas Massou, il s'est levé pour attendre la réponse. Et la réponse est bonne. Victoire. Bravo. Sans appel. Bravo. De l'équipe Benetton.
De rien,
Grégoire.
Grégoire.
Et donc,
ils ont essayé de nous fourrer, mais on a quand même gagné.
C'est toi, Grégoire, qui remporte l'enceinte Lexon. Félicitations.
Pourtant, t'as essayé de le faire gagner, Georges.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Je n'essaie de faire gagner personne, je suis ravi pour Grégoire qui va pouvoir se balader avec son enceinte, avec son mousqueton intégré à la ceinture. Merci Bennett, félicitations. Merci Simon, merci Jérôme Pinault et merci Pascal, tu restes avec nous. Les paris RMC arrivent.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.